Bon jeudi à tous, vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Ici Noémie, votre animatrice, et aujourd'hui...
Élise Rivray en co-animation!
Oh yes! Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la semaine, on vous a préparé une émission bien chargée, chers auditeurs, auditrices. À 16h, pour commencer l'émission, on reçoit un des cofondateurs de Hoc Productions et on parle plus précisément de la Cocothèque, un rave show échange artistique qui a lieu le 30 mars ici à Québec, plus précisément dans le quartier Saint-Roch. Par la suite, à 16h15, on reçoit Sarah Bourque et Laurence Duchesne pour parler de l'exposition Labyrinthe, expérience des Mérandes qui se passe ici à l'Université Laval. On reçoit Nathan Murray pour parler cinéma à 16h30. 16h45, on parle avec la réalisatrice Jenny Cartwright de son nouveau documentaire sonore « Nous sortirons de nos cuisines ». Et à 17h, on parle avec le groupe Eliov. Alors, comme je vous l'ai dit tout précédemment, on commence l'émission d'aujourd'hui et on a Lancelot qui est avec nous. Salut, salut!
Salut, bonjour à tous!
Je suis vraiment contente que tu sois avec nous en studio pour parler de la Cocothèque, qui est un rave, show, échange artistique, un événement quand même pluridisciplinaire qui se passe dans le quartier Saint-Roch le 30 mars. La Cocothèque, c'est un événement du collectif de musique Hoc Productions. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus sur Ocre Productions?
Tout à fait. À la base, c'est une aventure qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans, en fait, avec une bande d'amis qui a créé une association Ayatma qui, à la base, faisait de la réduction des méfaits. Puis, force, en fait, de faire de la réduction des méfaits dans des événements, on s'est mis à organiser nos propres événements, donc surtout dans le sud de la France, autour de Toulouse. Cette association existe encore aujourd'hui, mais on est 3 membres, en fait, à avoir émigré ici au Canada. Et du coup, on a décidé de continuer d'exercer notre passion, qui est d'organiser des événements, à caractère, évidemment, de manière bénévole, et puis pour développer plein de formes d'art différentes, tout en continuant aussi de faire un peu de réduction des méfaits, mais... de manière un peu moins active en appelant d'autres associations. Donc on était à Montréal à la base, puis moi en fait j'ai déménagé à Québec. Là c'est le mois dernier et j'ai rencontré du coup des personnes qui sont plus issues de l'art vivant, de la scénographie ou du théâtre. Puis du coup grâce à ces contacts qu'on a fait, c'est pour ça que maintenant là la Cocothèque est un événement pluridisciplinaire parce que le but c'est justement mélanger tout plein de formes d'art différentes.
Ouais, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait comme les événements passés de Hoc Productions, c'était tout à Montréal, puis là, je me demandais comment, tu sais, qu'est-ce qui fait que maintenant c'est à Québec? Puis tu sais la scène du rave à Québec, elle est très petite, très underground, c'est pas je sais mettons en France ou même à Montréal, c'est quand même plus gros, tu sais, qu'ici dans la ville de Québec.
C'est la scène qui est plus petite, mais pourtant, je suis sûr que le public est là, justement. Mais le fait qu'il y ait plus d'espace et, on va dire, moins d'organisation, ça laisse aussi plus la place à faire des événements un peu originaux, comme ceux qu'on a fait là, où l'intro de notre événement, ça va être des lectures de textes et de poésie. On a une performance aussi, en rapport avec Pâques et le chocolat. Suspense. et donc en fait il y a plus de place à faire des choses un peu plus créatives comme ça, le but étant que on veut aussi fédérer, c'est-à-dire que à un moment donné t'as pas forcément envie d'aller dans un événement où il va y avoir que du boom boom pendant genre 4 heures, mais t'as pas non plus envie de voir de la lecture de texte pendant 6 heures, et le fait de mélanger un peu tout ça, ça permet qu'il y en ait pour tous les goûts et aussi de mélanger les publics.
100%. J'ai vu en fait sur l'événement Facebook que la Cocothèque se passe en deux parties. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Comment ça va se dérouler cette journée-là?
Alors, à 15h, en fait, les portes ouvrent et l'entrée est gratuite sur contribution volontaire jusqu'à 20h. Il y a 2 salles en réalité. Donc, il y aura une salle dans laquelle il y aura la rave. Il y a aussi le bar, il y aura un peu à manger et tout. Et il y a une salle dans laquelle il y aura les artisans et plus les performances. Donc en fait, la première salle est ouverte dès 15h sur participation volontaire. Le but, c'était aussi de pouvoir donner l'accès à tout type de bourse, on va dire, que les gens qui n'ont pas forcément les moyens puissent aussi venir profiter d'un événement. Mais la contribution volontaire est quand même là, parce que 100% de nos bénéfices sont divisés entre les frais qu'on a comme la location de la salle, mais sinon c'est tout pour les artistes. À titre personnel, tous les organisateurs ne touchent pas de sous, normalement.
Ça, c'est vraiment... c'est quand même quelque chose de... qu'on voit peut-être, qu'on sait peut-être moins, ou que peut-être que vous savez moins, chers auditeurs, auditrices, mais quand on organise des événements, c'est souvent c'est souvent bénévole, puis les gens veulent payer les artistes convenablement. Fait que c'est...
En effet, la plupart des contraintes, en fait, viennent des normes, et c'est tout à fait correct qu'il y ait des normes. On va dire, ça va être la sécurité, par exemple. Ça coûte plus cher qu'avoir un artiste qui vient faire un show. Juste avoir un agent de sécu avec ses cartes qui reste là, même quand tu fais un événement de 100 personnes où c'est pas forcément nécessaire, ou tu prends l'autogestion. Du coup, c'est un peu technique, mais ça apprend que on est bénévole. Mais quand t'es bénévole, au final, tu vas pas compter les heures que tu fais, tu vas plus le faire par passion. Donc je trouve aussi que c'est un engagement qui est différent, où t'es vraiment là pour le fun, puis on est tous là pour avoir du plaisir et partager notre plaisir. C'est un peu comme si on vous invitait dans notre chambre pour un petit party, tu vois, sauf qu'on le fait dans une salle.
Puis dans cette première partie-là, qui se passe de 15h à 20h, qui est sur contribution volontaire, à quoi est-ce que les auditeurs peuvent s'attendre?
Alors, comme je l'ai dit au début, on va avoir deux animateurs, Margot Ganassa et Gabriel Sénéchal, qui sont des finissants du Conservatoire de théâtre de Québec, des finissants de l'année dernière. Ils vont faire de l'animation, de la lecture de textes. Dans ces deux heures-là où ils vont être animateurs, on va avoir un chanteur de rap qui s'appelle Soucoupe, sur Instagram, si vous pouvez suivre, et une performeuriste qui va lire un texte aussi, qui s'appelle Mona. Ensuite, on a un DJ set de musique 8 bits. Donc la musique 8 bits, c'est la musique qui est faite comme dans les vieilles consoles de jeux vidéo, dans les vieilles Nintendo. Donc c'est uniquement de la musique comme ça. Puis on a une petite surprise pour la fin, donc de 19 à 20h. On a DJ Sai, qui est un des fondateurs aussi de Hawk Prod, qui va faire un set de ce que nous on appelle la musique H&M. Genre un peu une sélection de musique de magasins de vêtements, et on va organiser un petit défilé et tout.
Ah ouais, ok, ouais. Avec le défilé en plus, nice.
Le coco filet.
Et par la suite, à 20h, commence la deuxième partie.
C'est ça, la partie un peu plus rave, on va dire. Du coup, là, on a les trois premiers artistes qui jouent, vont faire du live. Donc, il y a deux artistes qui vont faire du live machine. Donc, ils viennent avec des petites consoles qui servent à faire de la musique, à pas d'ordinateur. Et on a une artiste assez connue qui vient de Québec, qui s'appelle Magnanim, qui, elle, va faire aussi un live en micro house. Et c'est vraiment cool. On a pu la voir parce que c'est une artiste vraiment talentueuse.
Nice. Puis j'ai vu aussi que il allait avoir comme un petit marché aussi des je pense qu'il y a comme 8 artistes.
7
artistes qui.
Il y a 7 artisans qui vont être là. En effet, on voulait avoir plus une ambiance village au début, donc qu'il y ait des petits shows, mais qu'il y a aussi. Il y a aussi, en fait, que les gens puissent venir déambuler, regarder différentes petites productions. Les artisans, en plus, on leur fait pas payer la place. Ils viennent tous, vraiment, ça peut être même peut-être last minute, quelqu'un, s'il reste de la place, pourrait venir vendre ses trucs. Donc, on a du dessin, pas mal. On va avoir des petits bijoux, des petites toupies à vendre qui sont faits maison, des petits biscuits. On a une friperie aussi qu'on gère nous-mêmes en interne avec des vêtements qu'on récupère à droite, à gauche. Et il y a aussi un stand de Barba Papa psychédélique qui vient d'être annoncé là sur Facebook à 15h17 pour ceux qui veulent aller regarder un peu plus de détails, parce que c'est un peu une surprise.
Yes, fait que je sens qu'il y a quand même une grosse planification derrière cet événement-là, plein de choses qu'on sait, mais je pense qu'il va aussi avoir plein de petits Easter eggs pour pas faire un jeu de mots plate.
et oui, en effet, faut pas tomber dans le coco loco, mais oui, en effet, il y aura des Easter eggs.
Et pour nous mettre dans le mood. Ben, en fait, avant toute chose, j'ai vu quand même qu'il y avait des billets à vendre pour la soirée, pour le rave. S'il y a des auditeurs, auditrices qui souhaitent aller à la partie rave qui commence à 20h, comment ça fonctionne?
Il suffit juste de prendre sa place en pré-vente. Pour l'instant, il en reste encore, mais il y a moyen que ça parte et on est limité dans la place en nombre de personnes. Du coup, je suggère aux gens de prendre leur place en pré-vente. On a aussi mis à disposition des personnes de pouvoir acheter des boissons en pré-vente, et qui seront un peu moins chers que dans la salle. Ça permet aussi aux gens d'éviter de se balader avec du cash ou d'avoir à gérer ça. Et du coup, j'invite les gens qui prennent leur place, s'ils veulent avoir quelques boissons d'avance, ils peuvent acheter leurs boissons en avance sur Zephy, le lien de la billetterie, et sur l'événement Facebook La Cocothèque.
Yes, je l'ai partagé sur la page de Shiz, sur la page Instagram de Shiz Or. Fait que si vous avez de la difficulté à le trouver, ben vous pouvez aller sur la page Instagram de Shiz Or et la Cocothèque est là avec toutes les informations. Et là, avant l'entrevue, on parlait avec, en fait, Lancelot me dit, on pourrait-tu mettre une chanson, tu sais? Puis là, j'étais comme, quelle bonne idée pour vous donner envie d'aller à la Cocothèque, chers auditeurs, auditrices. Et tu m'as envoyé une chanson.
Ouais.
pourquoi avoir choisi, en fait, c'est pourquoi avoir choisi cette chanson-là, c'est de Enzo Is Burning, Girls on Film.
Eh bien, en fait, c'est une chanson qu'on allait chercher du matériel avec Lorena, une de nos décoratrices, qu'on écoutait dans la voiture et qui nous est restée dans la tête un peu au montage. Pour ceux qui ont déjà fait des événements ou qui n'ont pas fait, il y a souvent parfois des petites tunes ou des petites phrases qui restent quand on crée un événement avec les gens parce que c'est quand même une aventure humaine un peu fatigante. Puis celle-là nous est restée en tête, elle est très joyeuse. Elle est mélodieuse et du coup, elle correspond un peu à l'ambiance qu'on veut avoir nous en interne et qu'on veut partager avec le public. Ça aurait été compliqué de trouver une musique qui ressemble à tous les styles de musique comme tu as pu voir et tous les artistes qu'on a. Du coup, il valait peut-être mieux une musique qui ressemble à nous et qui nous représente. Parce que je tiens aussi à préciser que dans notre événement, il y a surtout beaucoup de filles qui sont participantes aussi à des postes de direction et que c'est important de nos jours de mettre ça aussi en valeur.
100%.
Du coup, la tune s'appelle Girls on Film, mais là, c'est Girls on Rave, on pourrait dire.
Très cool. Eh ben, merci, Lancelot, d'être venu nous parler de la Cocothèque. Vivement qu'il y ait plus d'événements comme ça dans la ville de Québec. Oui. Moi, je suis très fan.
Mais justement, c'est à quel endroit?
Ce sera dans Saint-Roch. La salle, par contrat, m'oblige à dévoiler que 24 heures à l'avance. Mais en gros, dites-vous que c'est par rapport à l'église Saint-Roch, on va dire 10-15 minutes à pied.
Okay.
Genre, donc, pour ceux qui sont vraiment impatients, même si on commence à 15 heures, ils pourront attendre dans le quartier, prendre un café et tout.
Ça fait partie de la chasse au trésor, de la Cocothèque, de trouver le lieu où ça se passe. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, merci
à vous
d'être venu, Lancelot. Et pour vous mettre dans le mood, chers auditeurs, auditrices, on écoute le mix rave. Vous allez voir, moi, tantôt, j'ai écouté ça, j'ai parti ça, puis je dansais dans le studio.
Vu ça.
On écoute Girls on Film de Enzo Is Burning. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur Zone de Chiz 94.3.
Go!
Vous êtes de retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Ici Noémie à l'animation et
Élise Rivray à la co-animation.
Yes, pour cette deuxième partie d'émission, on a avec nous en studio Sarah Bourque et Laurence Duchesne. Salut.
Allô?
Yes! Fait que, vas-y, ma chère Élise.
Oui, donc on est ici pour parler de l'exposition Labyrinthe, expérience des méandres qui se déroule en fait jusqu'au 23 avril à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins, donc le 2470 pour ceux qui sont plus proches. Puis ça vient, les personnes qui exposent, c'est le comité d'exposition des étudiants et étudiantes en histoire de l'art de l'Université Laval. Puis vous êtes les co-commissaires. Là, tantôt, vous m'avez dit que c'est votre première fois comme commissaire. Donc, comment ça a été? Ça a été quoi votre expérience?
Moi, ça a été une expérience positive que je me souhaite de revivre. Ça s'est bien passé. Moi, je pense qu'on a eu nos hauts pis nos bas. Comme toute expérience finalement. Puis ça nous a fait voir aussi c'est quoi les enjeux de l'événementiel. Donc, ouais. De devoir dealer avec les imprévus de dernière minute quand t'es à moins une de l'événement. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a pu être bien initiés au commissariat.
Puis comment avez-vous été amené à devenir commissaire pour cette exposition-là?
Il y a un appel de candidature à chaque année pour ce projet-là, qui est un projet étudiant. Puis, pour ma part, c'est Laurence qui m'a approchée. On est amis de base, là. Puis, c'est Laurence qui m'a approchée. Puis, je me suis finalement lancée dans l'aventure. Puis, notre projet a été retenu. Donc, c'est comme ça.
Puis, là, c'est la 7e édition de l'exposition. Comment vous vouliez, genre, faire différent? Est-ce que vous êtes inspirée des autres éditions ou vous préfériez, justement, faire quelque chose de complètement nouveau?
Ouais, moi, je sais que dans la recherche de thèmes, je suis allée voir tout ce qui s'était fait depuis les premières années pour proposer une thématique qui puisse bien se démarquer de chacune d'elles antérieurement. Fait que ça a été dans mon... Ça l'a nourri... ça a été dans mon processus. Puis finalement, je pense que ça a vraiment été un choix de thématique qui s'est fait aussi par rapport à mon expérience personnelle qu'on partage, moi puis Sarah aussi, la quête de soi, donc le labyrinthe.
Puis comment justement ce thème-là, puisque ça fait partie des activités satellites de la Manif, donc la Manif d'or, la 11e édition, qui cette année est sous le thème des forces du sommeil et cohabitation des vivants, comment ce thème-là du labyrinthe s'est inscrit dans la Manif?
C'est ça qu'on était vraiment surprise d'apprendre qu'on était en plus en année de biennale, puis que cette thématique-là fitait dans celle de Manif. Pis...
Ah ouais, c'était un heureux hasard.
Oui.
Mais là, c'est bien cool.
Puis j'ai réfléchi aussi au lien qui pouvait subsister entre le labyrinthe puis les forces du sommeil. Je pense que le labyrinthe, ça demande d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son environnement aussi. Donc, je pense que c'est une piste qui peut rejoindre celle du sommeil. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah.
Ça fait du sens, mais je pense qu'on peut même... Ça fait beaucoup de sens, ça, mais on pourrait même aussi dire que l'inverse ferait du sens dans l'idée de se perdre un peu à quelque chose qui peut être un petit peu inconnu, là. Tu sais, le sommeil, le rêve,
là, ouais.
C'est quelque chose qui est peut-être un peu hors de notre contrôle, puis dans quoi on se laisse guider un petit peu. Des fois, il n'y a pas tant nécessairement de repères, puis c'est nous qui s'en crée. Donc oui, peut-être d'être à l'écoute de soi. Mais c'est ça, je crois que c'est un peu là-dedans que la cohabitation se fait entre les deux thèmes.
Puis cohabitation, c'est toutes les œuvres qui se cohabitent ensemble dans l'espace. Puis c'est 14 artistes, puis 14 en même temps autrices. Comment le choix s'est fait des autrices puis des artistes?
On a procédé à un appel de dossier en automne.
Ouais.
On a présenté la thématique sur nos réseaux. Et donc, on a invité les artistes à soumettre leur candidature, leurs œuvres à une adresse, finalement. Donc, ça a été comme ça qu'on a procédé pour les artistes. Ensuite, on a fait une sélection d'artistes basée sur le respect de la thématique. Puis pour les autrices, finalement aussi, ça a été par un appel de projet, un appel d'autrice, en fait, adressé au programme en histoire de l'art.
J'ajouterais aussi que pour la sélection, moi, j'ai tenté de... Oui, le respect de la thématique, mais j'ai tenté de voir un certain lien entre les œuvres, mm-hmm. d'avoir comme un peu désolé de l'anglicisme, mais de big picture en tête pour tenter de voir des sous-thématiques qui pourraient cohabiter ensemble dans l'espace. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas prévoir à 100% la mise en espace. Là. Au montage, ça a été... on l'a vu, là, ça s'est un peu... Il y a certaines choses qui se sont dessinées sur place, mais ça a donné quand même une idée de... C'est ça, une idée d'ensemble de ce qui allait se retrouver.
Puis aussi... ça a dû quand même être un casse-tête de mettre toutes les œuvres parce qu'on parle d'œuvres très multidisciplinaires entre elles. Là, on a du vidéo, de la sculpture, des dessins, de la photographie. Donc, ça a dû quand même être un casse-tête de ce côté-là.
Ça s'est fait plutôt naturellement, finalement. On pensait que ça allait être un plus grand, un gros défi, mais finalement, ça s'est bien fait. Puis je pense que, comme tu disais, Sarah, on a essayé d'y aller avec des sous-thèmes que... notre thème pouvait rallier. Mm-hmm. Par exemple, on a des œuvres qui vont plus aborder la monstruosité, des œuvres qui vont plus aborder la quête de soi, d'autres le chaos. Donc, finalement, c'était de pouvoir regrouper ces œuvres-là ensemble. Ça s'est fait naturellement, c'est ça que je veux dire, finalement.
Puis même que la salle d'expo, on dirait que quand on est arrivé... C'était même plus grand que ce qu'on pensait. Mm-hmm. Ça a pas été... Ça a été un défi, mais pas si pire que ça, quand même.
Puis je me demande... l'exposition a lieu dans la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins, le local 2470. Comment est-ce que vous décrirez l'expérience de l'exposition, puis comment la vivre? Comment est-ce que les auditeurs auditrices peuvent la vivre au maximum?
Je pense que pour n'importe quelle exposition, il faut arriver avec un état d'esprit ouvert. Mm-hmm. Labyrinthe, expérience des méandres, ça va être une suite d'œuvres. Il n'y a pas vraiment de chemin proposé. Je pense qu'on va selon notre réceptivité aux œuvres, selon ce qu'on a envie d'être ou pas confronté. Je pense que aussi il faut se prêter au jeu du petit abri qu'il y a au centre de l'exposition. Je pense que c'est le parcours que je propose.
Oui, ben c'est ça. Je crois que la salle est faite de manière à ce que c'est fait de sorte qu'on a quand même un certain itinéraire un petit peu qui est suggéré, mais où finalement nous il y en a pas qu'on a vraiment. Décider à l'avance ou qu'on propose aux gens forcément. Comme tu dis, Laurent, je pense que c'est vraiment de se prêter au jeu puis d'y aller selon ce qu'on a envie rendu sur place. En effet, il y a des thèmes qui sont peut-être plus confrontants, plus dans les affects qui sont peut-être plus psychologiques. Mm. Puis ça peut générer aussi des sujets qui sont peut-être un petit peu plus sensibles pour certaines personnes, mais c'est justement pour le pourquoi on a mis presque dans le centre lui-même de la salle l'œuvre de Frédéric Harvey, l'abri, qui vraiment est un lieu de réconfort pour les visiteurs et les visiteuses durant le parcours.
Oh wow, super bien dit. Donc, c'est quoi finalement, genre, pour conclure un peu, votre souhait pour l'exposition? C'est quoi un peu les objectifs que vous vouliez atteindre l'exposition qui est jusqu'au 23 avril?
Je pense que, pour ma part, un des objectifs que je me souhaite, c'est que les gens aient pu découvrir des artistes qui vont suivre de près par la suite. Mm-hmm. Des artistes, puis peut-être la plume de certaines autrices. Parce que finalement, cet événement-là sert un peu de tremplin pour les artistes, les autrices, mais pour aussi les commissaires, que c'était notre première expérience de commissariat.
Puis en même temps, justement, les artistes, c'est des étudiants à l'Université Laval, où même les autrices sont étudiantes au baccalauréat en histoire de l'art, majoritairement. Donc, tout ça, c'est fait vraiment tremplin puis une première expérience pour eux.
Puis ça fait que tous ces gens-là ont pu peut-être avoir un premier contact, mais on va tous être amenés à se recôtoyer ultérieurement dans des vernissages parce que, tu sais, le milieu en art en art visuel à Québec, c'est un peu ça, tu sais. Oui, oui. Donc, je pense que c'est mon objectif. Je pense que j'espère que le public va pouvoir remarquer certains artistes qui pourront suivre le développement de leur carrière, finalement.
Oui, bien, je conclurais tout simplement en disant que, tu sais, je crois que ce projet-là, ça a été un peu ça a généré une certaine floraison d'un réseau entre artistes, étudiants, étudiantes en histoire de l'art. Puis je crois que j'espère que cette floraison-là va se ressentir dans l'exposition, puis que les gens vont apprécier tout simplement.
Donc, merci beaucoup, Sarah Bourque et Laurence Duchesne, qui sont les co-commissaires de l'exposition Labyrinthe, expérience des méandres, qui est au salle des expositions du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Donc, merci encore d'être venu aujourd'hui. Puis, on invite effectivement le public à aller voir l'exposition qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h et samedi en après-midi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez aussi aller voir sur les Instagram et Facebook de l'événement pour avoir plus d'informations.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on passe en pub, en moment publicitaire, mais au retour, on parle cinéma avec votre chroniqueur cinéma, Nathan Murray.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Cinéma! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Cheese 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
M'a pas parlé nos bières, Jacques.
Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'eau.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanick en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parler plein d'autres affaires.
Ben coudonc, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Cheese, 94.3.
Bonsoir, chers amateurs de musique cheesienne et cheesien. Vous êtes conviés à une expérience singulière de découverte musicale sans frontières précises. Chilule Pilule, c'est une contemplation du ciel étoilé avec sa propre trame sonore. Entre electronica, indie, bizarrerie française, allemande, italienne et occasionnellement des artistes invités, les jeudis soirs dès 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3, écoutez Chilule Pilule.
Il ne paye pas le prix!
Le mental!
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Conduite Antisportive les lundis de 15h30 à 16h30 afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Incroyable! Renversant! Super!
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
C'est un rendez-vous les lundis et vendredis
sur les ondes de Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous êtes de retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Cheese 94.3 et nous sommes accompagnés
de votre chroniqueur cinéma, Nathan Murray.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. C'est toujours un plaisir de te retrouver en studio pour parler cinéma.
Plaisir partagé.
Et là, tu nous amènes... tu es allé voir deux films à l'international.
Oui, deux films internationaux. Là, on est retombé dans une plus petite période. Là, c'est le creux post-Oscar. les gros studios réservent leur gros canon pour la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Hein. Dans les bonnes années, c'est là que Marvel sortait ses gros canons. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des films assez intéressants à voir là sur nos écrans. Notamment un film italien, on n'en a pas si souvent. Le Clap fait à chaque mois une présentation thématique hein, chaque premier mardi du mois. Mais les films qui prennent l'affiche à la régulière, si on peut dire, sont assez rares. On a eu le dernier Nanni Moretti, mais c'est des films qui se rendent plus rarement sur les écrans du Québec. Et cette fois-ci, on a droit à un film policier, là, Dernière nuit à Milan, en version originale italienne, sous-titrée française, hein, parce qu'on perdrait beaucoup trop dans le doublage. Hein. L'intérêt du film italien, c'est la sonorité en grande partie et la passion avec laquelle les mots sont dits. Donc, on se retrouve face au nouveau film d'Andrea Di Stefano qui nous présente un policier interprété par Pier Francesco Favino hein, qu'on a notamment pu voir au Québec. On le connaît notamment pour son rôle dans les films de mafieux, hein, dans les films de mafioso, il avait fait belle figure au dernier festival de Cannes notamment. Ben, c'est-à-dire il y a quelques festivals de Cannes. Et donc il interprète un policier qui, travaille à la fois comme policier tout près de la retraite. Une dernière nuit à Milan, c'est parce que c'est sa dernière nuit en tant que policier. Il prend sa retraite après 35 ans de service le lendemain. Il s'est jusqu'à maintenant tenu à carreau, si on peut dire. Bon, on comprend assez rapidement qu'il a fait des petites jobines de sécurité sur le côté. Mais il se vante lui-même, lorsqu'il pratique de façon très comique son discours de retraite interminable, il se vante de n'avoir jamais tiré au cours de ses 35 ans de service. De n'avoir jamais donc utilisé son arme à feu. Inutile de vous dire que c'est cette nuit-là que le tout prend fin, hein, puisqu'il se le trouve embarqué dans une sorte de nuit interminable, hein? Disons que ses petites jobines de côté, ou plutôt son implication en tant que chauffeur et gardien de sécurité pour pallier le manque à gagner. On comprend que les policiers sont dans une situation relativement précaire, dans une ville assez difficile, hein? Donc Milan qui est une métropole qui compte plusieurs millions d'habitants. Il est lié par sa très jeune femme à une famille semi-mafieuse qui va être justement la famille par laquelle le malheur va arriver, ou plutôt par laquelle l'action va arriver. Et à partir d'un moment précis, hein, tout se met à dégénérer et on se trouve face à une succession de petits drames, de mauvaises décisions. Principalement, aucun des personnages n'est particulièrement brillant dans ce film-là. Là, ce sont tous plus ou moins des ânes, aux oreilles plus ou moins longues. Mais le traitement... faut écouter le film en acceptant le fait qu'à peu près rien de ce qui se passe à l'écran n'est logique ou ne se tient debout. Au sens où, c'est un peu comme un épisode de Stat, mais mon Dieu, mais comment il peut se passer autant de choses qui n'ont aucun sens en si peu de temps. Le film dure quand même 2 heures, mais il y a quand même faut faire cet acte de foi-là, parce que les rebondissements sont pas des plus crédibles là, dans l'ensemble. C'est davantage pour la performance des acteurs, pour la musique aussi qui est exceptionnelle. L'ouverture du film, la scène d'ouverture du film qui survole Milan en partant du centre-ville jusqu'à ses banlieues les plus éloignées, avec ça dure à peu près 4 à 5 minutes là, ce survol-là, avec une bande sonore, une musique absolument exceptionnelle. Cette ouverture-là, elle seule vaut le déplacement. C'est très bien filmé, c'est très bien maîtrisé comme technique. La musique est vraiment entêtante là, au point que je je me suis procuré l'album de la bande sonore juste après. Ça reste, c'est pas un grand film. C'est un film qui demande, comme je l'ai dit, un acte de foi, mais ça demeure assez agréable. Le spectacle est assez impressionnant. On a ce monde-là aussi de flics un peu ripoux, de mafiosos pas si méchant que ça. Il y a la mafia chinoise qui s'entremêle donc aux gangs italiens. C'est vrai que ça donne une sorte de cocktail assez intéressant. C'est pas un grand film de mafia, c'est plus un film policier, une sorte de thriller assez oubliable, mais qui nous fait passer un bon moment devant le grand écran en tout cas.
Ouais, parce que ce film est considéré comme un thriller ou un drame aussi. Est-ce que malgré qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, qui a l'air à se passer dans le film comme tu le décris, est-ce que tu as été quand même tenu en haleine un peu sur le bout de ta chaise durant ton expérience
on est quand même tenu. C'est pas un prisonnier à la Denis Villeneuve là. On se doute assez. On voit parfois venir les ce qui s'en vient. Donc je dirais que moi qui suis d'une nervosité extraordinaire dans une salle de cinéma, j'ai pas piqué de ça ou j'ai pas nécessairement été tenu sur le bout de ma chaise. Je me suis intéressé au personnage qui est déjà quand même quelque chose. On se demande comment tout ça va aboutir quand même. Donc c'est un peu comme un bon roman policier, là, une sorte de page turner là, qui accomplit son office sans plus, mais c'est déjà suffisant.
Et pour le deuxième film que tu es allé voir, tu nous amènes au Royaume-Uni pour le film Une vie.
Oui, donc cette fois-ci, on se trouve... le principal attrait du film, ce qu'on met d'ailleurs très, très en avant dans la bande-annonce, alors qu'il occupe une place certes importante, mais qui est secondaire par rapport à l'intrigue principale, c'est Anthony Hopkins, qui joue... c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, hein, qui porte sur celui qu'on a appelé le Schindler anglais. C'est un homme qui étudie dans la banque, qui décide en 1939, juste avant l'invasion, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, donc il va faire une sorte de semaine de bénévolat pour aider avec les papiers, les réfugiés politiques. On est juste après l'invasion de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie par Hitler. Il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de juifs qui commencent à fuir et beaucoup de ces gens-là se trouvent à Prague, hein, qui n'est pas encore occupé. Hitler va pousser son occupation un peu plus tard, mais pour l'instant, la ville est encore libre. Donc, beaucoup de Juifs, beaucoup de Tchèques originaires de la région des Sudètes, beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands, se trouvent réfugiés là. Donc, on a un peu partout des camps avec des familles, des enfants en grand nombre et en visitant les camps, donc ce personnage-là qui a réellement existé, hein, touché par le sort des enfants, et il se dit bon ben j'ai pas le choix, faut que je fasse quelque chose, je peux pas laisser ces enfants-là dans cette situation-là. Il va tenter de les rapatrier en Angleterre, hein, l'Angleterre qui refusait d'accueillir ces réfugiés-là, comme quoi leur vie serait pas en danger, alors que bon, certains mouraient à cause des mauvaises conditions, plusieurs mouraient à cause des mauvaises conditions de vie, on étant dans une période qui est assez critique, et que plusieurs aussi étaient enlevés ou battus par les agents allemands qui commençaient à occuper le territoire. Et donc cet homme-là, avec les gens qui sont sur place, décide de mettre en place un plan d'évacuation pour pour envoyer en Angleterre le plus grand nombre d'enfants possible afin d'éviter qu'ils souffrent de la situation.
Puis pour t'es quand même un fan de films historiques, de films d'époque. Est-ce que ce film a marqué tes esprits?
Ben j'ai bien apprécié, sincèrement. On suit deux fils événementiels. Il y a une la partie, la majeure partie du film se déroule en 1938-1939 et on voit comment cet homme-là essaye de mettre en place les Nicholas Winton de son nom, essaie de mettre en place des ce système-là. Donc on a ce fil-là qui se déroule de la première visite de l'homme en Tchécoslovaquie jusqu'à la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Donc sur plusieurs mois. Et on a parallèlement ce même homme-là, devenu plus vieux, hein, qui décide de faire le ménage de ses archives. C'est là qu'il est interprété par Anthony Hopkins et qui cherche à qui donner finalement les documents qu'il avait amassés à cette dont tout le monde ignore l'existence puis dont personne ne se rappelle. Hein. Il va quand même sauver 669 enfants. Donc, les faire venir par régiment de train. Faut se dire que on pense qu'au moment où Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, il restait encore à peu près 15 000 enfants sur le territoire et que 15 000 familles et que de ces 15 000-là, seuls 200 enfants vont survivre. Donc, la majorité des enfants réfugiés en Tchécoslovaquie qui ont été sauvés l'ont été par Nicholas Winton. C'est vraiment au fait, on connaît un peu ce fait-là. Je sais pas si certains sont déjà allés sur Facebook, mais on voit une émission de variété anglaise hein, où il y a un vieux monsieur qui est invité, qui est dans le public. À un moment donné, l'animatrice lui dit « Bon, ben on est avec nous, monsieur Nicholas Winton, justement. » Puis, monsieur Winton, on voulait vous faire une surprise, mais la dame à côté de vous, hein, c'est l'une des survivantes de vos trains. C'est l'une des enfants que vous avez sauvés. On le réinvite par la suite en lui disant, il y a deux autres personnes qui veulent vous rencontrer. Et puis, il s'avère que l'animatrice invite tous les enfants qui ont été sauvés, toutes les personnes qui ont été sauvées par Nicholas Winton à se lever et l'ensemble du public. Donc, c'était des gens qu'il avait sauvés 30 à 40 ans auparavant.
Ça, c'est des faits réels.
C'est des faits avérés, c'est des faits réels. On peut encore voir la vidéo sur Facebook. C'était That's Life, je pense, l'émission. Très kitsch, une sorte de plateau de variété. Ouais. Mais il se trouve que la personne, finalement, qui a récupéré les documents de Nicholas Winton, c'était aussi... c'est une historienne qui se trouvait être l'épouse d'un mania de la presse qui s'est dit... Elle-même est étonnée par l'ampleur. Elle pensait qu'elle avait sauvé 6 à 10 enfants. Il en a sauvé 669. Donc, ça fait en sorte que c'est devenu une sorte de héros au Royaume-Uni. Et puis, on raconte finalement ce qu'il y a derrière cette histoire-là. C'est assez académique comme traitement. C'est beaucoup plus classique. Hein. Ceux qui ont trouvé le film de Jonathan Glazer, là, La zone d'intérêt, assez austère. Là, on se trouve davantage devant un film presque hollywoodien plus classique, là, avec un personnage. Ses tourments, le déroulement de l'action qui est assez chronologique, des bonnes performances d'acteurs. Anthony Hopkins est exceptionnel comme toujours. Helena Bonham Carter qui joue le rôle de la mère du jeune Nicholas Winton, celle qui un peu va faire le lien avec les autorités britanniques puis leur dire ben ces enfants-là, là, vous allez mettre des visas puis vous allez les sauver, est aussi excellente dans son rôle. Ça fait un bel ensemble. Encore une fois, c'est pas un film à récompense, c'est pas non plus un sommet du 7e art. Ça ne renouvelle pas le genre comme avait pu le faire La zone d'intérêt, mais c'est un très bon film. On est là, à certains égards, on est tenu sur avec le destin des personnages qui étaient impliqués, ou sur Nicholas Winton, le destin des enfants aussi, qui n'ont pas pu tous être sauvés. On est assez intéressé par ce qui se passe, puis ça donne vraiment un beau film assez émouvant. Là, faut avoir un cœur de pierre pour pas verser quelques larmes là à certains moments, notamment lors de la reproduction de la scène là où Nicholas Winton rencontre finalement tous ces gens qu'il a sauvé. Et puis c'est quelqu'un d'excessivement humble qui n'avait jamais parlé de son action vraiment, et ça donne vraiment des beaux moments, un beau film en version qui est disponible en version sous-titrée française, hein, c'est une version originale anglaise là, ça vaut vraiment la peine d'être vu.
Alors, le film Une vie et ainsi que le film Dernière nuit à Milan sont dans un cinéma près de chez vous, notamment au Clap.
Oui, où ils sont encore à l'affiche. On peut peut-être s'attendre à ce qu'ils prennent l'affiche aussi au quartier là, lorsque les copies se libéreront.
Yes, hey, mais merci beaucoup, Nathan, pour ta chronique cinéma. Et on se retrouve la semaine prochaine, probablement.
Sans doute.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on part en musique avec le groupe La Sécurité, qui sont en spectacle ce soir au Pantoum. Mais restez à l'écoute, car après la chanson Le Kick de La Sécurité, on reçoit la réalisatrice Jenny Cartwright pour parler de son plus récent documentaire sonore, Nous sortirons de nos cuisines. Entendre le kick de La Sécurité. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Toujours accompagnée de ma complice du jour, Élise Riverain.
Allô!
Et en studio avec nous, nous avons la réalisatrice Jenny Cartwright, qui est réalisatrice mais aussi co-programmatrice de la plage Écoute de Tank.ca, une plateforme qui est vraiment incroyable, qui est consacrée au cinéma documentaire et du documentaire de création. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de son plus récent documentaire sonore qui s'appelle « Nous sortirons de nos cuisines ». Salut Jenny.
Allô.
Je suis tellement contente de t'avoir avec moi en studio. On était supposé te voir hier parce que t'es à Québec pour le lancement, ben pas pour le lancement, mais pour l'écoute publique. Ouais. Nous sortirons de nos cuisines, qui est un documentaire sonore en quatre épisodes de 60 minutes. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, en tant que réalisatrice, c'est quoi les thèmes que tu explores dans tes œuvres?
Je dirais que c'est assez varié les thèmes, mais tu sais, je reviens toujours autour de l'autodétermination puis des inégalités qui se déploient sur plein de fronts. Là, je dis souvent en riant que si on abolissait le capitalisme, j'aurais plus de sujet parce que c'est souvent des trucs qui sont liés à ça. Mais tu sais, je peux parler autant. Je parle beaucoup du travail, je parle de la gentrification, de la pauvreté. Puis dans mes documentaires sonores, c'est beaucoup des thèmes féministes et historiques.
Puis, en fait, je suis curieuse de savoir, quand est-ce que tu as entendu parler du théâtre des cuisines pour la première fois?
C'est une longue histoire. Pour faire une histoire courte, en 2019, j'ai fait un documentaire sonore qui s'appelait « Debout ». C'était mon premier. Ça raconte que jusqu'en 1971, les femmes ne pouvaient pas faire partie d'un jury au Québec. Et il y a eu une action qui a été faite par le Front de libération des femmes, qui était le premier groupe féministe radical québécois. Et c'était un peu un vase communicant parce qu'il y a des militantes du FLF qui faisaient aussi partie du Théâtre des cuisines. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas rentrer dans mon histoire que je racontais à l'époque, mais je m'étais mis ça en réserve quand même, que je m'étais dit qu'un jour je reviendrais au Théâtre des cuisines.
Oui, parce que si vous ne connaissez pas le Théâtre des cuisines, Charles Tartre, c'est le premier théâtre féministe au Québec. C'est quand même pas rien dans l'histoire des histoires du Québec. Puis selon moi, c'est une histoire qu'on raconte pas assez. C'est une partie de notre histoire qui est trop méconnue selon moi.
Comme à peu près toute l'histoire des femmes, en fait.
Oui, effectivement. Je me demande, qu'est-ce qui t'a... On célèbre les 50 ans de la création du Théâtre des cuisines cette année.
De la première pièce.
De la première pièce. Et qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre... parce que tu parlais de bout de ton documentaire, comme ça que tu as entendu parler du Théâtre des cuisines. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire un documentaire sonore qui est dédié au Théâtre des cuisines?
Parce que je trouvais, qu'on les connaissait pas assez, qu'il fallait qu'on se rappelle d'elles parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'elles ont fait. Elles ont fait une pièce sur l'avortement à une époque où c'était pas légal. Les comédiennes étaient aussi des militantes qui faisaient des avortements avec Morgan Thaler et avec d'autres médecins. C'est essentiel. Tous leurs thèmes sont tellement forts. La deuxième pièce parle du travail invisible des femmes. La troisième parle de la charge mentale. Elle a été écrite en 80, puis c'est un problème qui est loin d'être réglé. Je pense que ce qui m'a donné envie de raconter leur histoire, c'est à quel point les thèmes résonnent encore fortement aujourd'hui. Il y a 50 000 femmes qui n'ont pas de place. Je dis femmes, là, c'est des familles, mais c'est surtout les femmes qui sont impactées par ça, qui n'ont pas de place en garderie en ce moment. Le dernier budget qui a été déposé il y a quelques semaines, il y a 0 piastre pour les garderies. Puis des garderies, c'est des choses, tu sais, les femmes du Front de libération des femmes puis les femmes du Théâtre des cuisines, elles demandaient des places en garderie en 1974, elles demandaient un accès à un avortement libre et gratuit dans les années 70. Ça, on l'a, mais c'est précaire, c'est toujours fragilisé. On voit aux États-Unis que...
100%.
Puis donc, c'était le fait, c'était à quel point ça résonnait encore aujourd'hui qui m'a donné envie de le faire. Puis aussi parce que je trouve ça important qu'on sache ce qui s'est passé avant nous, là, en tant que militante et en tant que féministe.
Tellement. C'est important de se rappeler, notre histoire puis de commémorer ceux qui ont milité avant nous. Mm-hmm. 100%. Tu parlais tantôt de ton premier documentaire sonore Debout, qui a gagné un prix aussi, là, le prix Numix du meilleur balado catégorie histoire. Pourquoi avoir choisi la formule balado pour nous sortir de nos cuisines?
Il y a plusieurs raisons. Bon, j'aime le son, j'aime vraiment beaucoup travailler avec ça. Je trouve que c'est un statement féministe fort parce que c'est des femmes à qui on n'a pas beaucoup donné la parole. Puis comme femme, on est systématiquement ramenée à notre apparence. Là, c'est un peu un pied de nez quand même que vous ne pourrez pas les voir, mais vous allez les écouter. Ouais. Ce qui est exactement l'inverse de ce que beaucoup ont fait. c'est plus facile de se confier à un micro qu'à une caméra. Je trouve que ça donne une beaucoup plus grande latitude pour raconter l'histoire parce que ça me permet de vraiment travailler le récit en enlevant des morceaux. Je pense que si c'était un film, ce serait vraiment saccadé. Ça me permet comme plus de latitude avec le montage. Puis aussi parce que je trouve que le son, ça a une espèce de pouvoir évocateur qui ressemble à celui de la littérature. C'est comme quand on lit un livre. T'sais, on se fait nous-mêmes les images. Puis là, on peut se faire les images des années 70, des années 80.
100%. Ben c'est Nous sortirons de nos cuisines, c'est un documentaire sonore qui est riche. Pour vrai, comme je te disais, Ordonne, j'ai écouté les deux premiers épisodes, puis genre, je les étends dans le temps parce que c'est tellement captivant que je veux que ça dure le plus longtemps possible. Puis tu sais, oui, on parle du théâtre des cuisines, mais on parle aussi de l'histoire du féminisme au Québec. Puis je me demande. En fait, plusieurs femmes ont contribué au documentaire sonore. Puis je me demande, ça a pris combien de temps c'est quoi tout le travail qu'il y a derrière ça? Parce que c'est, je veux dire, t'as quand même parlé avec plusieurs femmes qui ont été marquantes puis qui se sont impliquées au théâtre des cuisines. Mm-hmm. Comment, j'ai plein de questions en même temps, mais comment est-ce que t'es allée à la rencontre de ces femmes-là puis de gagner leur confiance aussi pour créer ce documentaire sonore-là?
Ben Debout m'a ouvert des portes.
Ouais.
Puis ça, gagner leur confiance, c'était quelque chose que j'ai réussi à faire relativement rapidement. Véronique O'Leary a été d'une générosité exceptionnelle. Elle m'a invitée à aller passer 4 jours chez elle dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on faisait des enregistrements, des balades au bord du fleuve. On continuait. T'as demandé combien de temps ça a pris. En tout, ça a pris 5 ans, mais c'est pas un travail linéaire. Puis entre-temps, j'ai eu 2 projets de films qui ont été financés. Fait que le pauvre théâtre des cuisines, il est souvent retourné dans le tiroir, puis je le sortais entre 2 projets. Mais en même temps, je pense que ça a été vraiment bénéfique pour le projet qu'il puisse se reposer, là, entre guillemets, de le laisser puis d'y retourner. Ça permettait d'avoir beaucoup de recul parce que c'est quand même 50 ans d'histoire à raconter. Là.
Hey, tellement.
Puis, comment justement les auditeurs, auditrices peuvent s'attendre à. Ben, à quoi qu'ils peuvent s'attendre en écoutant le balado? Donc, quel type de d'histoire qu'on peut raconter ou comment un peu c'est raconté?
Moi, je préfère documentaire sonore à balado parce que c'est un genre qui est beaucoup plus proche du documentaire filmique que les balados auxquels on est habitué. Les 3 premiers épisodes décortique l'histoire de chacune des 3 premières pièces, là, les pièces emblématiques. Puis le 4e épisode fait une espèce d'épilogue au temps de la vie des militantes comédiennes, mais aussi des luttes féministes. J'ai utilisé beaucoup d'archives, beaucoup de pièces qui rappellent chacune des époques. Il y a de la conception sonore, puis il y a aussi, ce qui le rend peut-être particulier, là, j'ai fait rejouer des extraits de chacune des 3 pièces par des comédiennes contemporaines, ce qui fait que les textes, soudainement, ont vraiment, vraiment l'air d'être actuels.
Ah ouais, 100%. Ouais, c'est...
De l'entendre là, par Marjo Beauchamp puis par Mireille Mitellus, là, on voit que ces textes-là, 50 ans encore, ils ont encore leur pertinence.
Ouais, c'est vraiment frappant. Puis je trouve que ça donne une belle... Tu sais, autant on a des moments où que on raconte, ben, l'histoire est racontée par des femmes qui se sont impliquées dans le théâtre des cuisines, puis par la suite avoir ces extraits-là. Il y a même des moments musicaux aussi. Fait que je trouve que pendant 1 heure de balado, c'est tellement riche, il y a tellement de choses qui se passent, puis ça permet d'être tout le temps en haleine, puis d'avoir envie de juste continuer à l'écouter. En fait, le balado est disponible, le documentaire sonore, pardon, est disponible sur SoundCloud et sur Apple Music. Mais tu as été en tournée là, à Montréal et à Québec pour des écoutes publiques.
Oui.
Ben, comment? Puis tu étais à Québec hier justement pour une écoute publique au cinéma Beaumont. Comment ça se passe, une écoute publique? Je suis vraiment curieuse.
C'est merveilleux. En fait, c'est la même chose que regarder un film en groupe. C'est les mêmes raisons qui font que regarder un film dans son salon puis regarder un film au cinéma, c'est différent. Donc, tu sais, les gens rient ensemble. Il y a quelque chose de vraiment magique de le faire en groupe. On l'a fait hier au cinéma à Beaumont. Puis aussi, ben, surtout, ça permet d'avoir une discussion après chacune des écoutes. Puis dans le théâtre des cuisines, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Les femmes refusaient de jouer si elles pouvaient pas avoir une discussion après le public ensuite. Une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qu'on leur a offert de jouer dans une grosse Saint-Jean dans les années 70. Il y allait avoir 50 000 personnes. Elles ont demandé est-ce qu'on va pouvoir faire une discussion après. Puis forcément, tu sais, évidemment, la réponse était non. Elles ont refusé d'y aller.
Nice.
Parce que c'était aussi important pour elles que le public puisse décortiquer ce qui avait été dit puis oui, vraiment poser des questions. Puis ça permet la même chose. J'ai eu la chance inouïe à Montréal. Carole Fréchette et Solange Collin étaient là. Mm. Ça, c'était absolument merveilleux. Puis là, il reste une séance d'écoute publique à Gatineau le 25 avril.
Cool. Puis c'est quoi... C'est quoi ton... Ben en fait, moi, on disait ça hors d'onde parce que la première fois que j'ai découvert le théâtre des cuisines, c'est avec un livre qui est paru en 2021. Et je me disais... Puis après, j'ai voulu faire des recherches sur le théâtre des cuisines. Mm-hmm. Puis je trouvais pas grand-chose pour une personne comme moi qui étudie pas en histoire ou quoi que ce soit, ou en études féministes. Puis je pense que le documentaire Balodola, il est tellement, ce documentaire sonore est d'une importance, est tellement important, là, j'ai pas de mots parce que ça, c'est des moments d'archives qui sont vraiment importants puis qui permettent de raconter 50 ans d'histoire. C'est quand même pas rien, fait que pour vrai, gros claquement de doigts. Puis ben, je me demande tout ça pour dire, c'est quoi ton plus grand souhait avec Nous sortirons de nos cuisines? C'est quoi?
C'est vraiment qu'ils soient entendus, parce que ça, c'est la partie difficile avec les documentaires sonores. Ouais. Toute la distribution au Québec, c'est difficile de distribuer un documentaire, point. Mais là, un documentaire sans image qui est fait de manière indépendante, là, parce que si je l'avais fait avec Radio-Canada, il serait sur leur site, puis là j'aurais plus de visibilité. Mais ça, c'est vraiment la partie difficile, là, donc c'est du bouche à oreille, puis mon souhait, ce serait vraiment qu'il réussisse à faire son chemin puis qu'il soit entendu.
Mmh. Mmh. En tout cas, moi, j'en parle depuis que je sais que c'est sorti. J'en parle à qui veut bien l'entendre. Je suis vraiment contente que tu sois déplacée en studio pour parler.
Merci pour l'invitation.
Yes, n'importe quand. Fait que merci, Jenny. Puis je vous invite à aller écouter le documentaire sonore de Jenny, Nous sortirons de nos cuisines, qui est disponible sur SoundCloud et sur Apple Music. SoundCloud, c'est gratuit. Oui. Accès.
En fait, je pense qu'il est facile à trouver là sur à peu près toutes les applications de balado-diffusion habituelles.
Yes. Hey, mais merci beaucoup, Jenny.
Merci beaucoup.
Et pour notre part, chers auditeurs, auditrices, on part en moment publicitaire. Mais au retour, on parle avec le groupe Eliov. Et voilà!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Monsieur Message de la République.
Si t'es un mélomane de Québec et que t'aimes des artistes comme Jimmy Hunt, Wednesday, Laurence Anne, Nouchou, Hiatus, Coyote, Fudge, pis que t'es vraiment tanné d'entendre des tunes dans ce genre-là,
découvrir de la nouvelle musique émergente, qu'elle soit locale ou internationale, c'est au Club Critique que ça se passe. Go!
Un mardi sur deux, de 14 à 15 heures, on décortique trois albums et on écoute de la musique parce que c'est la seule chose qu'on sait faire.
Qu'on aime faire.
Club Critique, c'est ma opinion musicale.
Sinatra, Véranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, un mardi sur deux, 22h à 23h sur Chiz 94.3 FM.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et, chers auditeurs, auditrices, c'est le party en studio parce qu'on a quatre des membres de Eliov, plus précisément Florence, Léa, Thierry et Jules. Salut!
Gros party!
Salut. Salut! Gros party! Moi, j'adore quand on me dit « Ah, oh, on peut-tu être quatre? » Je suis comme « Oui, vous pourriez être six. » J'ai eu des enfants en studio, regarde, moi, je suis...
Avoir su, j'ai ramené du monde.
Ben là, c'est party! Ben pour commencer, Elia, vous êtes un groupe de la ville de Québec. J'aime toujours mettre les auditeurs, auditrices, comment apprendre un peu plus vous connaître. Mm-hmm. En fait, c'est quoi l'histoire d'Elia? Comment est-ce que vous êtes rencontrés, puis comment avez-vous été amenés à faire de la musique ensemble?
En fait, on a étudié ensemble au CNDF. Ça fait déjà quelques années qu'on a fini, mais Elia existe depuis l'automne 2019, fait que ça fait quand même, ça commence à faire un petit bout. Puis c'est ça, on s'est rencontrés, on étudiait en musique, on s'est rencontrés au cégep. J'ai demandé à Jules, à Florence, de si ça leur tentait de partir un projet de musique avec moi. Puis on s'est lancé là-dedans à petits pas, petite bouchée. Puis ça a grossi avec le temps. On est allé chercher d'autres musiciens. Puis il y a Thierry puis son frère qui se sont joints à nous. Il y a pas si longtemps que ça. Thierry, ça fait quoi? Ça fait un an qui était avec nous?
Oui.
Ouais,
ça doit faire ça. À peu près comme un an et demi.
Voilà, fait que on est rendu là.
Puis d'où vient le nom Eliov? Je suis comme curieuse.
Ouais. La question est bonne parce que nous aussi, ça a été long avant qu'on trouve le nom en tant que tel. Puis on partait de zéro. On n'avait pas vraiment d'inspiration à la base. Vu que notre style, il est très éparpillé. Tu sais, surtout mm-hmm. si on écoute notre premier album, on voit beaucoup d'influences, on voit beaucoup de styles. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de retrouver quelque chose là-dedans qui peut nous inspirer à trouver un nom, c'était un petit peu compliqué. Puis, avec un petit peu d'imagination, puis surtout avec l'image de se dire, ben, on a plus l'idée d'avancer vers quelque chose que d'être stagne dans un style. Puis est venue l'image, ensemble, d'une voile. Puis là, avec un petit peu d'imagination et de créativité, on s'est dit, on pourrait retourner pour juste faire au moins un petit peu plus original. Fait que retourner le mot voile pour que ça crée Eliov. Puis de là est venu, dans le fond, notre nom.
Ah, j'adore. Puis je suis curieuse, ben, en fait... Je suis pas curieuse parce que je connais quand même l'univers, l'univers musical d'Eliov, mais pour ceux qui connaissent pas le projet d'Eliov, comment est-ce que vous décriveriez votre univers musical?
Je pense qu'une des premières contraintes qu'on s'est données, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de limite. Mmh. Donc, ça serait un peu. C'est notre prémisse, puis je pense qu'on la garde quand même dans le sens où on veut pas s'encombrer de J'ai pas le mot.
De titre ou de nom de genre.
Oui, exact. De styles musicaux précis. Puis surtout qu'on a étudié en jazz et un peu en classique aussi. Donc, on a toutes sortes d'influences diverses dans le groupe. Donc, c'est le fun de se nourrir un peu des forces de chacun, chacune. Donc, on avance comme ça. Puis voilà.
Mmh.
Puis vous êtes quand même un band avec six musiciens, musiciennes. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi votre processus de création? Comment est-ce qu'on crée à six?
C'est particulier, effectivement. ça l'a changé, mm-hmm. ça c'est à savoir, ça l'a changé au cours des années. Donc, tu sais, c'est comme Léa l'a dit, ça fait déjà un petit bout qu'on est ensemble. Puis à la base, dans le fond, on était tous assis ensemble dans un petit local où est-ce qu'on partait de petites maquettes que quelqu'un avait pu, tu sais, créer dans un local. Puis on arrivait, on présentait l'idée, chacun amenait une phrase de plus, une idée mélodique, un accord. Fait que, tu sais, c'était comme un peu une construction de Lego là, qu'on ajoutait chacun et chacune pour construire quelque chose qui devenait une création, une pièce. Puis, mais ça, c'était beaucoup pour le premier album. Puis pour le deuxième album, bien qu'on aurait voulu à tout prix continuer dans ce style-là de création, ben vient un peu la réalité de l'université, le fait de chacun va dans des avenues différentes. Fait que, tu sais, c'est qu'on n'est plus tout le monde tout le temps ensemble dans la même école, mais on veut encore faire de la musique ensemble. Donc, tu sais, on se dit, ah, ben, on pourrait peut-être créer quelque chose de plus complet. Donc moi, mettons, je peux amener une maquette qui va être avec les instruments, qui va avoir déjà des idées un peu prescrites, puis chacun peut changer par la suite avec ce que j'envoie, un audio, justement, une vidéo, n'importe quoi. Puis quand on se retrouve, peut-être au mois, ben là, on travaille le reste, on peaufine, on vient juste faire comme la petite finition par-dessus. Fait que c'est plus tant de la création de A à Z tout ensemble, plus que quelqu'un amène son idée, puis on met la touche Eliov tout ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que les pièces, bien qu'encore très progressives, peuvent être parfois même ancrées dans un style un petit peu plus... Si Thierry amène une pièce, ben ça va être quand même son style à Thierry. Et fait que ça vient comme un peu être ça, Eliov. C'est plein de pièces qui deviennent être... qui nous représentent chacun l'un et l'autre.
C'est comme une grosse courte pointe musicale.
C'est bien dit.
Ouais, voilà.
Personnellement, quand je compose pour Eliov aussi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai deux... Mettons j'ai environ 2-3 maquettes pour l'instant. Puis... quand je compose pour Eliov, je pense aussi aux membres. T'sais. Je pense aux gens qui vont jouer sur la pièce. T'sais. Tout le monde a son son, tout le monde a sa manière d'interpréter la musique. Fait que quand je me dis, ah, mais je compose par exemple pour Jules, je sais que Jules, il fait certaines affaires. Puis que ça va sonner bien avec Jules, mais que ça sonnera peut-être pas bien avec un autre pianiste. Parce que c'est composé pour Jules et non pour un autre pianiste. Et par exemple, je compose des mélodies parce que j'entends Léa puis Florence chanter ces mélodies-là. Tandis que ça pourrait, dans ma tête, pas être deux autres chanteuses. Fait que ça fait que, dans ma tête, ça, c'est vraiment une composition pour Eliov quand je compose quelque chose, au lieu d'une composition que je ferais, par exemple, pour un autre projet de jazz. Parce que, ben, je pense à ces membres-là, contrairement à d'autres moments que je composerais, par exemple.
Ouais, puis tu sais, ça sent aussi qu'il y a une amitié aussi derrière Eliov, puis ce qui doit faire que c'est encore plus... pas plus facile, mais plus instinctif, peut-être.
Plus harmonieux aussi, peut-être.
Ouais, de composer ensemble. Vous avez célébré les 4 ans de Eliov cet été. Puis vous avez sorti un EP qui s'appelle aussi Eliov en mai 2022. Mm-hmm. Puis je me demande, comment est-ce que Eliov a évolué depuis ses débuts en 2019?
Je dirais de plein de manières différentes. On a parlé du processus créatif. On a parlé aussi de l'ajout des membres de Thierry et Loïc. Donc ça aussi, ça fait que le groupe change et continue à grandir. Jules a parlé aussi un peu des compositions, des fois, qui diffèrent, justement. Donc, tout ça, ça évolue. Puis je pense qu'on se laisse porter un peu, justement, là, par cette voile-là, là, ce bateau, des fois, qui nous tire vers l'avant sans même qu'on lui donne de l'énergie. Là. Donc, on avance avec lui, puis on essaie de voir qu'est-ce qui va nous amener.
Puis même que... pour aussi faire du pouce sur ton idée. On s'est aussi, par contre, donné comme but d'avoir un avenue un petit peu plus jazz, par contre. Vraiment, être ancré dans ce style-là. Après une grande résidence, une masterclass, classe de maître, avec Maëva Clermont-Giguère, qui était beaucoup axée sur la création puis la composition. Puis, tu sais, elle voulait nous encourager à un petit peu se retrouver à quelque part. Bien, mais en ayant un terme qui peut en accueillir d'autres. Fait que, tu sais, c'était à s'ouvrir. Ben, est-ce qu'on veut se retrouver plus dans le rock puis accueillir les autres styles ou dans le jazz puis on veut s'accueillir puis on veut accueillir les autres styles? Mm. Puis après longue réflexion, mais on a décidé justement de rester dans le jazz puis de se définir par cette avenue-là et accueillir tout le reste des idées. Fait que ça a été un beau choix. C'est pour ça que là, ça a été comme la plus grosse évolution. Puis dans les prochaines compositions, puis dans le prochain album, on va beaucoup pouvoir l'entendre, la ligne directrice jazz. Là.
Cool. Puis accueillir non seulement les idées, mais peut-être même d'autres instrumentistes qui veulent se joindre. Là, je lance ça comme ça. Dans le prochain album, on a un trio de cuivre qui jouent avec nous, en fait. Donc ça, c'était aussi dans l'idée de poursuivre et d'élargir un petit peu nos sphères musicales.
Vraiment très cool. Puis vous êtes membre de l'Ampli de Québec, qui est un organisme de Québec qui a pour mission d'accompagner les artistes musicaux de la relève. Comment est-ce que l'Ampli vous aide dans votre développement en tant qu'artiste?
L'apport de l'Ampli est quand même est très important, surtout le volet Première Ovation qui accorde des subventions aux artistes de la relève de Québec. Mm. On a reçu déjà trois subventions de Première Ovation, donc c'est juste l'aide financière, c'est considérable dans les projets. Oui. Parce que évidemment il faut considérer cet aspect-là financier. Puis justement, si on veut grossir le projet, avoir des idées un peu plus d'envergure, comme l'ajout de cuivre justement sur un album, ben il faut penser à ce que ça coûte aussi. Mm-hmm. Puis des grosses subventions avec le calque, le CAC, c'est quand même relativement inaccessible pour des artistes, des petits projets. Donc, Première Ovation est important pour ça.
Ouais, puis je veux dire, on l'a vu cette année, il y a tellement d'artistes qui se font, il y a tellement peu de personnes qui ont des subventions de la calque, entre autres. C'est quasiment, ça se posait des questions. C'est vraiment problématique dans le milieu des arts au Québec. Puis en fait, justement, en parlant de l'Ampli, vous faites un spectacle dans la série des membres de l'Ampli. Ça a lieu le 11 avril prochain. À quoi qu'on peut s'attendre? Parce que là, moi, j'ai vu des petits sneak peeks là, sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va... À quoi on peut s'attendre pour le spectacle du 11 avril? Parce que vous étiez en première partie de Marie-Céleste. Hmm. Un mois environ, je pense, le 7 mars, oui. C'est ça? Fait que peut-être les gens qui ont... C'est ça. À quoi qu'on peut s'attendre, le 11 avril? Tout ça pour dire ça.
au Pantoum, le mois dernier, c'était quand même assez électrisant comme spectacle. On voulait bien servir Marie-Céleste, bien ouvrir pour eux. Il y avait beaucoup de monde. L'ambiance est très rock au Pantoum. Ça brasse quand même. À l'Ampli, je pense que ça va vraiment être une formule plus intime. La salle est plus petite. Mm-hmm. On va être plus proche des gens. On sera 5 musiciens sur 6. Donc, il y a ça aussi qui va ajouter peut-être, d'autres couleurs, en fait, aux compositions. Puis, on présente des nouvelles compositions. Donc, ça, c'est vraiment bien pour ceux et celles qui ont envie d'écouter peut-être des nouvelles choses. Ça sera l'occasion.
Mm-hmm. Avoir un avant-goût de ce qui va arriver pour le futur.
Est-ce qu'on peut en parler du futur? C'est sous embargo. Ah ouais. Fait c'est quoi les... Bon, là, il y a le spectacle le 11 avril à l'Ampli. À l'Ampli, pour vrai, qui une petite salle, mais pour vrai, moi, c'est une salle que j'adore là, de Québec, que j'apprends à découvrir à travers différents festivals, là, entre autres le Saint-Roch XP et
le Foc-Off,
exact. Ouais. Puis pour vrai, tu sais, c'est un peu caché, tu sais, faux. Mm-hmm. Mais pour ceux qui se demandent, c'est où l'Ampli Québec? C'est au 240 rue Saint-Joseph-Est. Alors, direct, vous marchez sur Saint-Joseph, c'est à côté du district, me semble.
Oui, ouais.
Voisin de l'Impérial aussi.
Voisin de l'Impérial. Fait que c'est ça, bref, tout ça pour dire, c'est quoi les prochains projets de Eliov? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur?
Ben comme on a glissé un mot, on fait donc tout du matériel nouveau pour le spectacle. Et de ce fait même, il y a un nouvel album qui va sortir, qui va sortir à la fin de l'été. Mmh. Comme on disait avec, je reprends les mots de Florent, donc, un saxophone, un trombone, une trompette. Il va avoir, toutes nos nouvelles compositions, Loïc et Thierry qui jouent sur l'album, donc les nouvelles sonorités, les nouvelles avenues qu'on a travaillées. Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est un gros projet qui s'en vient, dans le fond, pour la fin de l'été. C'est quelque chose qu'on est vraiment excité beaucoup de spectacles, ben, des spectacles aussi cet été sur lesquels on commence à travailler puis à essayer de se booker le plus possible, une petite tournée. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup de choses qu'il faut rester à l'affût avec Eliov parce que bien que, tu sais, il y a eu beaucoup d'activités dans l'internet avec le Pantoum, l'ampli qui s'en vient. Il y a comme beaucoup de choses aussi nouvelles qui s'en viennent et on l'annonce par beaucoup de spectacles. C'est comme si on aura beaucoup une sorte de prémisse à l'album là, avant même de l'avoir entendu sur les plateformes. On pourra l'entendre en spectacle avant. Mm-hmm. Fait que...
Avoir le vent dans les voiles.
Parlant de vent dans les voiles, vous avez sorti le quand même.
Mon micro était fermé. En parlant de vent dans les voiles, vous avez sorti un live session, là, il y a quand même quelques mois, il y a 7 mois environ, un live session avec Jeanne Laforêt et Raphaël La Liberté Dégagnée, qui est magnifique, là, juste pour vous donner envie de regarder le live, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes comme tout en demi-cercle ensemble, avec plein de drapés blancs, avec tous des outfits avec un peu de dentelle et tout. Là, c'est super
Merci.
Beau et je sais pas, envoûtant. Là. Quasiment un peu onirique là, comme environnement. Là, c'est super beau. Là, on voulait faire une performance live. Et là, ben là, ici en studio, faut que ça soit un peu acoustique. Là, fait que des fois, on est un peu plus limité, mais vous nous avez envoyé. La performance de ce live-là qui est disponible sur YouTube.
Givre entre nos doigts.
Oui, le givre entre nos doigts, merci. Puis bien, on va l'écouter. Mais là, chers auditeurs, auditrices, on a un petit cadeau pour vous. On a une paire de billets pour le spectacle de Eliov le 11 avril à l'Ampli. Alors, pendant la chanson, vous pourrez appeler et avoir la paire de billets pour aller voir Eliov en spectacle. Hey, merci.
Ben merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous. Puis longue vie à Eliov. Voilà. Oui. Alors, on écoute le givre entre nos doigts de Eliov. Vous pouvez appeler au 418-656-2215, 418-656-2215, pour mettre la main sur la paire de billets pour aller voir Eliov le 11 avril à l'Ampli de Québec.
Thank you. aujourd'hui, revers d'automne chargé d'attente. Les feuilles craquaient et ton silence.
C'était un extrait du live session de la chanson « Le givre entre nos doigts » de Eliov. Et c'est ainsi qu'on finit, chers auditeurs et auditrices, l'émission d'aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Un merci tout spécial à ma co-animatrice, Élise Rivrain.
Ça m'a fait plaisir.
J'adore ça. Faut que tu aies plus co-animer avec moi. Là. C'est ben
totalement.
Trop, c'est ben trop le fun. Et ben, on va remercier nos invités du jour en rafale, parce que Dieu sait qu'on en a eu beaucoup aujourd'hui.
Oui.
Mais c'est toujours plaisant d'avoir des moments privilégiés en studio avec une panoplie d'artistes et de chroniqueurs qui couvrent plein d'horizons artistiques. Alors, on commence avec Lancelot, qui nous a parlé de la Cocothèque, un rave show échange artistique qui se passe dans le quartier Saint-Roch. L'endroit va être dévoilé 24 heures avant le show. Alors, restez à l'affût. Vous pouvez voir le revêtement qui est sur Facebook, la Cocothèque, et sinon, sur la page Cheese. Or, j'ai mis le revêtement.
En story.
Alors, allez checker les stories de Cheese. Or, merci encore, Lancelot. Sinon, un merci à Sarah Bourque et Laurence Duchesne, étudiantes à la maîtrise en histoire de l'art, mais aussi commissaire de l'exposition Un labyrinthe, expérience des méandres. Ça se passe ici, à l'Université Laval. Yes! Bon, t'es fou de t'aimer. Ça se passe du 18 au 23 avril 2024 et c'est à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins, local 2470, ici, où sont les studios de Chiz.
Exactement.
Sinon, merci à votre chroniqueur cinéma, Nathan Murray. Toujours, j'adore Nathan. Salut, Nathan. Je te salue. Merci pour tes recommandations cinématographiques. Sinon, un grand merci à Jenny Cartwright. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter son documentaire sonore. Nous sortirons de nos cuisines, qui est disponible sur SoundCloud et Apple Music. Et sinon, un gros merci à Eliov. Son spectacle, le 11 avril, à l'Ampli. Chérie, on se voit la semaine prochaine.